J'ai toujours vécu pour les 400 mètres d'une course. Mais les temps changent.
On y est, dame. Et maintenant ?
On peut aller aussi vite qu'on veut.
C'est peut-être perdu d'avance, mais on y va ensemble.
Tu sais que je te suivrai jusqu'à la mort.
À nous de jouer.
J'ai le cul en flamme !
Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce cinépod qui sera consacré à la franchise Fast and Furious, ou Rapide et Dangereux au Québec. Je suis Nico, et avec moi, pour en parler, il y a Yann.
Vroom vroom à toi, Nico.
Voilà. Il est aussi rapide, il est précoce, et ben, du coup, je sais pas, c'est bizarre, parce que t'arrives pas à séduire les filles, généralement. Hein.
Non, mais les femmes disent toujours que je baisse trop vite, mais comment elles peuvent juger sur 15 secondes?
Ah là 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 là.
Voilà, et Yann, tu vas chercher. Hein.
Yann dégaine ses vannes de façon rapide, et elles sont dangereuses.
Oh, c'est... putain.
Allez, pas le temps de niaiser, comme on dit là-bas. Nous avons 8 Fast and Furious et un dérivé à faire avant la trilogie finale, qui oui, arrivera oui. A priori en 2021.
Mais ce qu'il faut dire, c'est quand même, j'ai du mal à croire que toute cette franchise, 20 ans après, parte d'un article.
Lequel ? Là ? Le ?
Ouais, c'est ça. Non, Lee, justement. Le journaliste s'appelle Ken Lee. Mais le gars, il a écrit un article qui s'appelle Racer X, et il parlait des courses-poursuites et des vols dans les rues de New York. Et il y a des mecs à Hollywood, ils se sont dit, tiens, on va transposer à Los Angeles, et on va faire ça.
C'est vrai que quand Fast and Furious, le premier du nom, sort en 2001, il y a un côté, c'est la mode du moment, le côté course clandestine, sur les grandes routes américaines, et donc oui, c'est un film qui sort au bon moment, en fait. Et qui est donc réalisé par Rob Cohen et scénarisé par entre autres Gary Scott Thompson, qui est derrière la série Las Vegas et le reboot de 2008 de Knight Rider, plus grande série de tous les temps. Et donc
je rappelle
voilà.
Qu'elle est toujours hiatus, hein. Elle a jamais été annulée.
Voilà. Je désespère pas que Peacock la relance. Et donc elle met en vedette Feu Paul Walker dans le rôle de Brian O'Connor, un flic qui essaye de s'infiltrer justement au sein du milieu de ces courses clandestines, dont Dominic Toretto alias Dom est, j'ai envie de dire la figure principale, la tête de proue, on va dire. Lui est c'est un des plus grands champions.
C'est ça.
Des courses, voilà. Et donc il est interprété par Champagne sans plomb 98. Voilà. Moi, mes blagues, elles sont lentes à venir et elles sont pas dangereuses.
Je n'ai pas compris celle-là.
Champagne sans plomb 98, qui interprète Dominic Toretto.
Vin Diesel. Oh putain. Oh merde. Oh merde. On m'avait pas dit que j'étais dans une partie de Contrario.
Bien loin, celle-là, hein. Le pire, c'est que ça fait au moins un mois que j'attends de pouvoir la caser. Ah là 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 là. Il a une sœur, Mia, qui est interprétée par Jordana Brewster et qui, évidemment, ne va pas laisser insensible Brian. Et il y a aussi Michelle Rodriguez, qui fait du Michelle Rodriguez. Mais ce coup-ci, elle s'appelle Letty. Voilà.
Bon, il y a des Michelle Rodriguez dans le rôle de Michelle Rodriguez?
Bah, c'est-à-dire, ouais, c'est la fille, je suis badass. Voilà.
Elle a que des rôles comme ça. Enfin, elle est connue pour ces rôles-là. Elle en a peut-être d'autres, mais.
Ben, Resident Evil, Avatar, ben voilà,
Machete.
Quand même. Ouais, elle en a un paquet, hein. Et généralement, en cours de franchise, elle meurt et elle ressuscite. Je désespère pas de la revoir dans Avatar 2, 3 ou 4, hein.
Ouais, je suis d'accord. Et dans Lost, elle est morte?
Je te rappelle la fin de Lost.
Ouais, bon, d'accord.
Et donc, bref, bah, c'était un film très sympa, moi, j'avais trouvé, parce que, justement, ce côté des courses, c'était plutôt bien foutu, bien réalisé, c'était réaliste en fait surtout.
Ouais, c'était fun.
Voilà, il y avait juste ce qu'il fallait de petits trucs, un poil exagéré du genre la course finale là où ils sont côte à côte. Vas-y, on va passer juste devant le train qui fonce, tu vois, à un centimètre près, tu vois. C'était juste le côté exagéré qu'il fallait pour que ça soit fun, quoi. Enfin bon, ça se regarde sans problème. C'est loin d'être le film de l'année et tout ça. Et là, moi, j'ai une grande théorie. Je suis sûr qu'en fait, ils se sont pris le train à la fin du 1. Et tout le reste n'est qu'un fantasme de personnes qui sont dans le coma.
Et à la fin, l'île, c'est le paradis. C'est le purgatoire, pardon.
Non, parce que quand même, on est quand même 7 films après où ils sauvent le monde de complots internationaux à base de méchantes organisations et de puces informatiques qui peuvent contrôler tous les ordinateurs du monde. Hein.
C'est ça.
Attends, le mec, il passe sa vie juste à faire des courses de 400 mètres contre ceux qui le défient, en fait. D'où ça devient un putain de super espion international.
C'est ça.
Voilà. D'ailleurs, à la base, je s'appelle Dom, il voulait pas reprendre le rôle, quoi. Pour lui, c'était un film unique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le voit ni dans le 2, ni dans le 3. Malgré qu'on lui avait proposé 20 millions de dollars, hein, pour reprendre le rôle. Je veux même pas savoir combien ils lui ont proposé pour jouer dans le 4, parce que... Et voilà, dans le 2,
Après, on a... Après, prends en compte l'inflation, hein. Je pense que 20 millions de dollars d'il y a 20 ans, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui.
Oui, mais c'est ça, quoi. Je veux dire, c'est le côté... le côté, oui, il a eu les couilles pour dire, ben voilà, moi je veux pas faire de suite, ok, d'accord. Bon, tout le monde lui a dit que c'était le plus gros con du monde, mais je pense qu'il a bien joué le coup, parce que pour revenir dans le 4, il a dû toucher beaucoup plus que 20 millions, mais... Et donc dans le 2, ben on continue avec Brian, qui ce coup-ci, ben va chercher à infiltrer... Il va pas chercher à infiltrer, puisque lui, il est aussi en cavale, mais du coup... voilà, il se retrouve dans le... C'est quoi, la Floride ? Ouais, ça doit être ça, non ?
Oui, il va à Miami.
Voilà, et il se retrouve à devoir infiltrer un mafieux pour laver... ne plus être en cavale, quoi. Voilà, le SDI lui propose un marché. Du coup, il va chercher son pote Tyrese Gibson... Enfin, joué par Tyrese
Roman
Gibson.
Roman Pierce.
Yeah. Et c'est pas encore une caricature, Roman, à ce moment-là. Et je sais pas, le 2, ouais, ça c'est, ouais.
Alors autant le 1, je m'en souviens. Autant
le 2, 3, je m'en souviens. Le 2,
je m'en souviens
parce qu'il y a une voiture rose qui est pilotée par Devon Aoki, qui joue Suki. C'est une voiture rose avec des décos manga, j'ai fait, oh putain, le cliché. Oh non, une Asiate, elle a une voiture rose pleine de
manga, oui.
Ouais. Oh, j'ai fait, mon dieu, heureusement qu'on est en 2003, hein, parce que là, aujourd'hui, ça passerait plus. Mais tu vois, c'est ça, c'est cette image-là. Mais après, le 2, il est, je l'ai revu, je l'ai redécouvert, hein. Ouais, d'accord. Ah, il se passe tout ça? Vraiment? C'est spécial, on va dire.
Ah ouais, m'en parle pas, oui.
Mais il est important puisqu'il a introduit quand même donc Roman et son pote là, Tej qui vont rester dans la saga. Voilà. Et t'arrives au 3, bon bah là même Paul Walker il veut plus, donc du coup on envoie l'action à Tokyo.
Ouais.
Et donc du coup t'as plus personne. Et c'est le problème en fait. Tokyo Drift, c'est le premier film de Justin Lin et j'ai un gros problème avec ce réalisateur en fait. C'est que il est pas bon dans toutes les scènes de.
Moi non plus.
Non, dans toutes les scènes d'action, elles sont illisibles en fait les scènes d'action. C'est il y a combien de fois je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils se sont retrouvés comme ci à ça? Et je me dis enfin tu vois entre la réalisation où le mec il essaye de faire des plans trop stylés mais en fait non, ils sont pas stylés et le montage qui est très cut de clip vidéo, tu sais.
Moi je pense que c'est un peu méchant.
T'as quand même tout
sur une échelle de Michael Bay, on n'est qu'à 90%.
Ouais parce qu'il place, il met pas des, mais encore même Michael Bay c'est lisible. Tu sais quand le Transformers part d'un point B, il va à un point A, il passe par le point. Enfin tu vois, mais là, t'as la fin, t'as la course où ils doivent descendre la colline avec toute la route en cercle. Mais j'ai fait mais putain, elle est encore plus longue qu'un terrain de foot d'Olivier Tom quoi en fait. Au bout d'un moment, je fais mais Attends, le mec, il vient de tomber dans le vide, la bagnole s'est renversée, mais l'image d'après, il est juste en train de faire un dérapage pour être dans le cul de l'autre. Soit t'as coupé trop vite et t'as oublié de mettre encore un tonneau pour qu'il se remette à l'endroit, ou... Magie. Tu vois, c'est ça, la course, elle est interminable, et puis voilà, c'est tout. C'est mal filmé, je suis désolé. Et le problème, c'est que, bah, il enchaîne sur le 4, 5 et 6, et il va revenir pour les trois derniers. Et il s'améliore pas, en fait. Sur le 4, 5 et 6, et si tu vois que c'est vraiment, les Fast and Furious peuvent, rien qu'en regardant l'image, ça date de quelle époque? C'est tellement les façons de réaliser à la mode du moment. Et, ouais. Voilà. Bon, du coup, bon, il y avait personne, hein, qu'on connaissait dans Tokyo Drift, je crois, mais ça a introduit Anne.
Il y avait personne qu'on connaissait. Non, il y avait personne.
Ah si, on a Vin Diesel qui a dû toucher à peu près 90 millions pour faire une scène à la fin.
Ouais, il fait un caméo à la fin, quoi.
Voilà, pour lier le truc, mais il y a aucun personnage qu'on avait déjà vu dans les deux premiers. Mais il y a Anne.
À mon avis, le 4 était déjà en pré-prod et c'est le premier plan qu'il a tourné, c'est le dernier du 3.
Sûrement une connerie comme ça. Mais du coup, t'as Anne. Et sauf que Anne revient après. Donc en fait, finalement, on nous a expliqué après que Tokyo Drift se passe entre le 6 et le 7.
Bah du coup, comment il peut découvrir Anne?
Et que donc, voilà. Enfin, après, moi, j'ai envie de dire, j'aime bien le personnage de Anne. J'ai envie qu'il ait un film en solo.
Allez, bisous.
Avec tes cadeaux, celle-là. Et en plus,
tu continues comme ça, tu vas finir comme Parker. Tu vas te faire tège.
Oh putain. Non, mais bon. Et donc, en fait, j'ai l'impression que ça va devenir Anne, le personnage principal de la saga, puisque, en fait, tu découvres plus tard que c'est ce personnage-là, interprété donc par le même acteur, hein, comment ça s'appelle?
Hanwei. Non, Sun Kang. Pardon.
Oui, c'est ça. Oui, Sun Kang, qui était donc déjà dans ce personnage de Anne dans le film Better Luck Tomorrow en 2002, qui était donc le premier film solo de, non pas de Anne, mais de Justin Lin. Donc finalement, Better Luck Tomorrow, un film qui à la base n'a aucun rapport avec Fast and Furious, devient une préquelle de Fast and Furious. C'est beau. Et le film, il est introuvable. Il est totalement introuvable, il repasse nulle part, il est sur aucune plateforme en VOD. J'ai pourtant même fouillé des bacs dans les cash converters, tu sais, je l'ai pas trouvé dans les DVD à 50 centimes là. C'est bon, bah, je veux dire, même illégalement en VO, t'arrives pas à le trouver. C'est ouais. c'est un truc de dingue quoi. Voilà. Donc on arrive au 4 où bah là c'est là que ça part en couille en fait. Hein.
Bah. Excuse-moi, mais déjà, le premier était sympa. C'est-à-dire que c'est pas le type de film vers lequel je vais en général. Hein. Mais le premier était sympa. Le deuxième, il manquait Vin Diesel. Le troisième, voilà. Déjà, ils nous ont parlé du drift, alors que ça faisait 2 ans que le drift était plus à la mode.
Ouais, mais tu vois, bon, ça reste réaliste. Je veux dire, c'est le truc... ça reste des courses réalistes, ça reste un environnement réaliste. Bon, bah... Ouais, d'accord, le jeune américain qui se retrouve au Japon et qui veut s'imposer parce que bon, la solitude c'est pas bien, donc il veut se la péter. Bon, après bon, tu rajoutes un peu un passé chelou aux États-Unis, tout ça, ça reste crédible. C'est juste que dans le rôle, comment il s'appelle, Lucas Black, c'est ça, ouais, c'est Lucas Black. Il a aucun charisme en fait. Non. C'est dommage, mais bon. Et là, à partir du 4, c'est là que ça part en couille, quoi. Enfin, voilà, on a le meurtre de Letty, et du coup, Dominique veut la venger. Enfin, bah oui, donc il retrouve Brian, et puis voilà, ils vont aller. Et là, en fait, j'arrive pas à m'en souvenir. Je me souviens de scènes du début. J'ai fait, oh putain, ça se voit que c'est fin des années 2000, début des années 2010, c'est au niveau de la photographie, ouais, de la façon de réaliser tout ça. Mais en fait, le film, j'arrive pas à... Et pourtant, je l'ai vu, ah, il y a quoi, je l'ai vu, il y a quoi, il y a un mois et demi.
Moi, je te cache pas que quand le 5 est sorti, j'ai dû voir à peu près les 5 à ce moment-là. Et depuis, ça fait depuis 2010 que je l'ai pas vu, quoi. 2011 que je l'ai pas vu.
Oui, non, mais c'est ça. Moi, je l'ai vu il y a un mois et demi. J'arrive pas à m'en souvenir, en fait.
C'est un peu plus emmerdant, ça.
Ouais, parce que c'est, le film n'est pas marquant du tout. Et j'avais, à l'époque, hein, au moment de la sortie, j'avais vu Fast and Furious 1. J'avais vu le Too Fast, Too Furious. Enfin, au moment de la sortie en DVD. Et après j'avais laissé tomber le truc parce que bon bah je me disais ouais Tokyo Drift ça va être cliché sur cliché des japonais c'est bon puis j'avais jamais repris le truc là c'est là finalement je me suis dit mais merde au bout d'un moment il faut quand même peut-être que je rattrape cette saga et il faut que je comprenne pourquoi on en arrive à 8 films et tout puis à chaque fois je voyais les annonces de casting je fais oh putain Dwayne Johnson Idris Elba enfin waouh il faut enfin, je veux dire non mais il faut au bout d'un moment enfin, je me dis, il faut que je rattrape le truc, quoi. Et, ouais. Bah, le truc, c'est quoi, là? J'arrive pas à m'en souvenir. C'est dingue. J'essaye, je lis le résumé ne me dit rien, en plus, c'est ça. Voilà. Confronté à un ennemi commun, Arturo Braga, ils sont contraints à former une alliance incertaine s'ils espèrent parvenir à déjouer ses plans. De l'attaque de convoi aux glissades de précision qui les mènent hors de leurs propres frontières, les deux hommes trouvent le meilleur moyen de prendre leur revanche en poussant les limites de ce qui est faisable au volant d'un bolide. Bah ouais, mais non, je suis désolé, c'est John Ortiz hein, qui joue Arturo Braga, si ça peut vous aider, mais voilà, bon. L'avantage, c'est qu'il a introduit Gal Gadot, futur Wonder Woman, à l'époque.
Oui.
Et c'est là qu'en le voyant les films, tu fais, oh putain, elle est nettement meilleure en Giselle qu'en Wonder Woman. Ça pose un problème. Et donc arrive en 2011 le 5. Ah oui, le 5 qui démarre par on enlève Dominique. Tu sais le mec il a fait pendant le premier hein, il arrête pas de répéter non, je retournerai pas à Lonpok. Hors de question, je préfère mourir. À la fin du 4, oui, ça y est, je m'en souviens, il fait "Bon ben je me rends hein, enfermez-moi à Lonpok." Et tu démarres le 5 par la grande course-poursuite sur la route bien désertique.
Ah oui, oui, oui.
Pour aller le sortir du convoi pénitentiaire, en fait.
Oh putain, oui, c'est le 5, c'est le 5 qui commence comme ça. J'étais persuadé que c'était le 6.
Non, c'est le 5. Et du coup, voilà, ils vont se planquer au Brésil et ils décident de monter à dernier coup pour être en cavale, mais riche, tant qu'à faire.
Non, mais c'est-à-dire que c'est toujours un dernier coup avec eux. Quand tu regardes dans le 5, c'est un dernier coup. Dans le 6, c'est un dernier.
Et voilà. Donc maintenant, t'as la famille, hein, parce que tout d'un coup, c'est la famille. Hein. Brian, il fait partie de la famille. Bah oui, c'est ta placeur, donc forcément. Mais du coup, tu retrouves donc Dominique, Brian, Mia, Roman et Tej. Et donc, ils sont poursuivis, entre autres, par... Et puis Anne et Giselle, hein, du coup. Et ils sont poursuivis par Luke Hobbs. Joué par le très subtil futur président des États-Unis en 2032, Dwayne Johnson.
Ouais.
Oui, parce qu'il y a la série Young Rock, où il est candidat à la présidentielle 2032, et il raconte sa vie pour dire « Moi, je mentirai jamais aux Américains, c'est pour ça qu'il faudra voter pour moi. » Et donc, il raconte sa vie, quand il avait 10 ans, 15 ans, 18 ans, voilà. Comment il est devenu le Rock.
On est d'accord que c'est le gars, il fait une série sur sa vie, en racontant sa vie, il se fait payer pour ça.
Voilà. Et il l'a produit lui-même. Mais c'est assez fun. Bah après, c'est Dwayne Johnson. De toute façon, tu mets Dwayne Johnson dans n'importe quoi, ça devient fun. Tu vois, c'est dans le truc, dans le spin-off, là, Luke et Hobbs. Hobbs et Shaw, plutôt. Luke et Hobbs.
Ça... C'est comme le spin-off
Dom et Toretto, en fait. Non, mais... Non, Hobbs et Shaw. Tu vois, il y a un moment, quand il fait, tu sais, quand il les rejoint dans l'avion, et l'autre, il fait, putain, je pensais pas que t'arriverais à aller si vite, et il le regarde, et il fait, ouais, mais qu'est-ce que tu veux, j'ai un capital sympathie, qui fait que tout le monde m'aime. Et, ouais. Et du coup, bon, bah, tu te dis, ouais, c'est le super agent du FBI, machin. Bon, il est là pour un épisode, quoi, pour mettre les bâtons dans les roues. Et c'est presque devenu la star, en fait, de Fast and Furious, par la suite. Et donc oui, bon après là t'as encore une fois, mais après c'est... enfin je veux dire voilà après ça reste, j'ai même pas envie de décrire les scènes parce que ça devient tellement du, voilà c'est les grandes courses poursuites avec le coffre-fort accroché aux voitures, et vas-y qu'on est sur le pont, qu'on saute sur des hélicos, des conneries comme ça. Enfin, oui, arrive au bout d'un moment, je veux dire, c'est, il faut les voir. C'est des trucs, c'est comme les blagues, quoi. Au bout d'un moment, il faut que tu voyes le comique la raconter, la blague. Tu vois, là, je te raconterai, je sais pas, un gag du, oui, le mec, il s'est pris le poteau. Bah oui, mais c'est pas drôle. Mais si tu vois le mec se prendre le poteau, c'est drôle. Là, c'est pareil, j'ai envie de dire.
Je suis assez d'accord avec toi, puis c'est le moment où ça commence à, voilà. C'est le moment où le fait d'être parti en couille est assumé. Et les gars, ils disent, maintenant qu'on est parti en couille, on rattrape pas le truc. Bon, on va se faire plaisir.
Voilà. Maintenant, on va transformer ça en les Expendables.
Ouais, c'est un peu ce qu'ils ont fait, d'ailleurs.
Voilà. Parce que, donc, tu démarres le 6, bah, ils ont réussi leur casse, ils vivent tous tranquilles de leur côté, bon, toujours en cavale, hein, du coup. C'est un peu chiant-chiant. Et de son côté, Luke Hobbs, il s'en prend, enfin, il traque Owen Shaw. Et c'est là
déjà
que tu ouais. Bah, 6, ça va, c'était il y a que 3 films. et donc, voilà, et on enfin, il va faire appel à Dominique pour l'aider parce qu'il n'arrive pas à capturer Owen Shaw. Parce que sa complice, c'est Letty.
Tintintin.
Elle n'est pas morte. Et j'aime bien là comment on rétropédale là, sur la continuité du truc pour te montrer que en fait non, il l'avait pas tué dans le film dans le 4. Donc tu sens bien la scène bien retournée hein pour faire le lien et voilà, donc du coup les deux ennemis sont obligés de s'associer pour arrêter Owen Shaw et donc récupérer Letty. Voilà. Bon, après, comme d'hab, on fonce dans le tas. C'est... Bah, j'ai envie de dire, ouais, enfin... Le problème, c'est qu'il manque de subtilité dans le jeu de Michel Rodriguez pour vraiment... Enfin, t'as quand même un mur qui parle à un sol avec entre Michel Rodriguez et Vin Diesel. Hein.
Oui, c'est un peu ça. Parce que c'était mon argument d'après. Si tu me dis que Vin Diesel a de la subtilité, je vais pas te croire.
Bah putain, mais ça... il y a quand même... Tu dis, le mec, il est en mode robot automatique hein, dans les films. J'ai l'impression que tu sens qu'il a pas envie, mais il a tellement de fric à se faire que bon bah je le fais quand même.
Je sais pas s'il est en mode robot ou s'il est juste là pour se faire plaisir en disant bon j'ai pas envie de bosser.
Ouais,
tu
ou alors,
dire, la alors entre il, deux, j'y vais sans bosser, j'apprends mon texte et on avisera.
Ouais, ou alors il s'est dit ouais vas-y c'est le mec stoïque, inébranlable et tout, donc je joue comme ça. Sauf que ça donne une impression de robot. C'est enfin quand tu le vois en interview pour vendre le film, il est très expressif quoi, il y a aucun mais tu fais mais pourquoi tu fais pas un peu plus d'expressivité dans les Fast and Furious. Et face à Michel Rodriguez qui a un peu quand même tendance à aller dans le surjeu, les scènes de tension romantique entre lui qui la poursuit pour essayer de lui faire rappeler qui elle est et elle qui sent bien qu'il y a un lien qui existe avec lui, bah c'est censé être émouvant et tout, mais non, enfin voilà, c'est ce que je dis, c'est un sol qui parle à un mur quoi, enfin du coup, c'est vu que c'est quand même un peu tout l'intérêt du film repose là-dessus. Hein, c'est comment va-t-il réussir à convaincre Letty ou lui faire récupérer la mémoire. Bah voilà quoi, c'est bon. Et là, t'as quand même. Par contre, de l'autre côté, t'as le couple qui s'est formé entre Anne et Gisèle, qui sont super, qui est un super couple. Et ben du coup t'as la scène finale qui se déroule tout autour de l'avion qui veut décoller et elle meurt comme une merde parce qu'il fallait raccorder ça à Tokyo Drift.
Oui.
C'est le mec qui passe son temps à dire dis donc j'aimerais bien aller à Tokyo dans le 5, dans le 6 et elle qui fait ouais ça serait cool qu'on aille à Tokyo. Ouais ok, c'est vrai qu'il y a Tokyo Drift où tu meurs dedans et je fais comme Gisèle elle est pas dans Tokyo Drift, il va falloir trouver un moyen de se débarrasser d'elle puisque vous l'avez mis en couple. Bon, bah elle meurt comme une merde dans la course. Mais vraiment, hein, pour le coup, j'ai fait mais il faut arrêter de mettre Gal Gadot sur un aéroport. Hein. Ça marche pas non plus dans Wonder Woman à la scène de l'aéroport avec elle, le premier. À la fin.
Mais qu'on soit bien d'accord pour que je sois sûr de saisir toute la subtilité du truc. Hein. On est d'accord que niveau organisation, on est pire que dans Star Wars. Où les gars ils se sont pas dit on va faire une trilogie avant la trilogie précédente, ils se sont dit non on va faire un film qui va venir au milieu des autres.
Bah, pour moi, c'est clair que Justin Lin récupère la franchise. Sun Kang, c'est son pote. Il l'a remis dans la franchise. Sans compter qu'il était mort. Bon, après, il faut trouver un truc, sachant qu'il va revenir dans le 9. Voilà. Et du coup, t'as une scène post-générique qui te montre Jason Statham dans une scène qui nous rappelle celle de Letty au début, qui est complètement retournée pour le voir abattre Anne. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, putain? Et là, au téléphone, il est là. Dominique Toretto, j'arrive pour toi. Et là, on découvre pourquoi. Parce que c'est le frère de Owen, c'est Descartes Shaw. Et qui veut venger son frère. Du coup, bon, bah, t'arrives. Fast and Furious 7.
Et franchement, niveau histoire de famille, le parrain, il peut aller se rhabiller, quoi.
Et là, donc, t'arrives avec Fast and Furious 7, où, donc, c'est en gros, Dominique Toretto contre, le frère de Owen Shaw, Descartes Shaw. Voilà. C'est quand même Jason Statham. Hein, le mec, il s'y connaît en bagnole, hein. Le transporteur, braquage à italienne, puis il a une classe, putain, Jason Statham, quoi. Tu vois, c'est ça, au niveau du set, je me suis dit, mais il va falloir que je reprenne, quoi. Tu mets dans le même film Vin Diesel, Michel Rodriguez, Dwayne Johnson, Jason Statham, quand même, il arrive à un moment, et Kurt Russell, parce qu'il faut pas oublier Kurt Russell aussi. Hein,
en non, putain, il a morflé, Kurt Russell. Oh, vache.
Du tout. Non, mais il arrive à un moment, tu te dis, ouais, quand même, quand t'as ligne à casting comme ça, enfin, je veux dire, je les adore tous, il faudrait peut-être que je reprenne le truc, quoi. Ouais, non, ouais. Et c'est là que ça commence aussi à partir en couille, hein. C'est quand même, t'as la putain de scène où ils traversent les trois tours, là, Dubaï, là, où je sais plus où.
Ah oui, putain, c'est celui-là, Dubaï?
Je sais plus si c'est Dubaï ou Qatar. Enfin, bon, bref, c'est là-bas, quoi, au Moyen-Orient, oui, où ils traversent, machin, il y a la fête et tout, ils vont dans la fête, ils intègrent la fête, ils en font des tonnes dans la fête. C'est là que tu te dis, bon, bah, désolé, Tyrese, hein. Roman Pierce est mort il y a trois films, en fait. Mais là, tu t'en rends vraiment compte quand il essaye de faire le gros cake dans la fête du milliardaire. Bembe, allez, hop, la voiture, il y en a que trois exemplaires au monde. Vas-y, qu'on la prend, on traverse les trois immeubles à coude.
C'est ça.
Ouais, mais tu vois, ces films-là, t'arrives toujours à te rappeler d'une scène. T'arrives à te rappeler là de la scène qui traverse les immeubles, tu te rappelles de la scène dans l'autre film là, la course poursuite avec le gros coffre attaché aux bagnoles, tu te rappelles de la scène où il y a avec l'hélicoptère, le machin. Mais le 3, enfin le 4 pardon, non.
Le 4, il y a
pas de scène marquante. Enfin, je suis sûr, je revois, je fais ah ouais, si, il y a peut-être une scène marquante ou machin, mais bon, voilà. Et du coup, ouais, bah là, il y a plus de scénario en fait. Le film, il est parti en quéquette totale. Hein,
c'est ça. Pardon, j'allais dire si, il y en a au moins un pour qu'ils aient leur ligne. Non, non, il y a un script, il y a plus de scénario.
Oui, mais là, t'en es quand même au truc à récupérer l'œil de Dieu, le machin qui va te permettre de contrôler toutes les caméras, tout, y compris même les smartphones qui sont pas actifs, tu sais. Ils arriveront. Le truc, il arrive, donc tu as verrouillé ton téléphone, il arrivera quand même à se servir de ta caméra pour filmer les trucs, quoi. Enfin, tu te dis, ouais, déjà le truc, bon, il est peut-être pas réaliste aujourd'hui, en fait. Peut-être dans 10 ou 15 ans.
On est d'accord qu'au départ, c'est le 7 qui devait être le point de départ de la dernière trilogie.
Oui, mais il s'est passé un petit problème.
Bah, c'est-à-dire que Paul Walker s'est retrouvé dans une voiture qui a fait Fast and Furious comme elle devait pas.
Voilà, dans la vraie vie.
Enfin, du coup, dans la vraie mort.
Oui, si tu veux. Et du coup, ben, tu peux quand même facilement pointer les scènes raccords qu'ils ont été obligés de faire avec les frangins de Paul, parce que du coup, le Brian, il a toujours filmé de dos ou la tête penchée, hein, pour pas qu'on voie la tête de.
C'est ça.
Que c'est pas la tête de Paul Walker. Voilà, quasiment toute la scène d'action finale. Au bout d'un moment, ça devient ridicule, quoi, de ne pas voir ne pas voir Brian de face, quoi. Je veux dire, tu vois tous les personnages, tu vois Jane Johnson, tu vois.
Surtout que 10 ans avant, on savait déjà intégrer un visage sur un corps.
Voilà.
Parce que dans Star Wars 3, quand tu vois le Christopher Lee qui a 85 ans fait un saut par-dessus une rambarde, tout le monde sait que c'est son visage qui a été intégré numériquement.
Oui, c'est ça, puis même, bon, putain, les dates de quand, le 7, 2015, c'est ça?
Ouais, ouais, c'est pour 2015. Ça qu'il dit, non.
Ouais, 2015, c'était peut-être encore léger, les incrustations, vraiment, mais, comme aujourd'hui, on est capable de faire, voilà, dans Star Wars, par exemple, c'est dans Rogue One, où ils ont ressuscité, là, le Tarkin.
Le Tarkin?
Ouais.
Ouais.
Et c'est parfaitement crédible, je veux dire.
Sachant qu'il l'avait déjà fait de loin, mais il l'avait déjà fait dans Star Wars 3.
Oui, ou même là dans le Star Wars 9. Alors désolé, mais il y a une scène flashback avec Luke et Leia juste après l'épisode 6. C'est là encore une fois, elle a été tournée aujourd'hui et c'est crédible, quoi.
Alors c'est moins crédible dans le Mandalorian, par contre.
Oui, mais comme je savais pas où t'en étais, donc j'ai pas voulu. Mais
parle ouais, principe. Non, mais tu vois, c'est valable pour tous les podcasts à suivre. Si j'ai vu, c'est plus spoiler.
Non, mais voilà. De toute façon, on a pas dit ce que ça concernait. Mais je pense qu'en 2015, c'était jouable au moins comme ça dans une scène rapide d'action de, comme tu dis, d'incruster le visage. Mais je pense qu'ils ont eu. Ils ont vraiment été perturbés et Vin Diesel, clairement, hein, dès qu'il reparle de Paul, tu sens que c'était vraiment son pote, quoi, et qu'il a été, très marqué. Mais ça reste le problème que t'as cette scène finale chelou où ils partent, alors très symbolique, hein, où ils font la course de 400 mètres et ils prennent chacun une route qui diverge, tu sais, et avec Vin Diesel qui débite son texte. Alors je regardais en VF, je sais, ouais, bon, c'est peut-être le, parce que le texte il est pas génial, hein, non plus, le texte hommage, hein, et du coup, je le mets en VO et je fais non, en VO non plus. Et je fais ouais, en fait, c'est si tu la sors du contexte du film, il sort là, évidemment, t'as parlé de la mort de Paul Walker pendant le tournage, au moment de la sortie du film, t'as reparlé de la mort de Paul Walker. Donc quand tu vas voir le film au cinéma là à ce moment-là, oui, la scène elle doit te marquer parce que forcément il avait un capital sympathie énorme, quoi, Paul Walker, c'était pas l'acteur du siècle, mais il s'éclatait dans le rôle, il était plaisant à voir jouer.
Pas juste éclaté tout court.
Oh putain. Et...
Pardon.
Mais quand tu la regardes comme là, moi, avec 5 ans de retard, ben en fait, la scène, elle est pas bonne.
Elle est ridicule.
Ouais,
elle est ridicule.
Et là, si tu regardes le truc, j'imagine le jeune qui avait 5-6 ans quand ça arrivait, il le regarde dans quelques années, tu sais, quand il a 15-16 ans, quand ils auront fini, peut-être il se dit, tiens, je vais me faire toute la saga d'un coup. Il va pas comprendre la scène finale parce qu'elle est trop bizarre, en fait. Cette scène là où je te dis ils font une dernière course parce que oui, comme j'ai des enfants, je décide de partir de mon côté. Merde, mais il fallait le tuer, en fait, Brian. C'est con, mais d'un autre côté, ils ont tellement tendance à ressusciter les morts que là, au moins, bon, bah, il part faire sa vie de son côté.
Du coup, le seul acteur qui est mort, ils le font pas mourir, le personnage.
Voilà. Et au pire, ils punissent une actrice avec, hein, parce que du coup, Jordana Brewster, elle est coincée, elle aussi. Mais non, ou alors tu vas la revoir.
Elle va annoncer dans le prochain.
Ouais, elle va annoncer, elle va faire. J'ai divorcé de Brian.
ouais, je mettrai une piécette là-dessus.
Soit il y a une connerie comme ça, soit ils vont te dire, Brian, il est mort off-screen. du coup, tu perds Anne à la fin du 6, tu perds. Brian à la fin du 7, tu dis le cœur de la famille de Dom, il commence à être bel et bien réduit. Et arrive le 8 où tout se passe bien, hein, il a réussi quand même à redonner plus ou moins la mémoire à Letty, donc du coup il va se marier avec elle, tout se passe bien, c'est génial, mais voilà que débarque Cypher, comme on dit si bien en VF, Cypher. Une femme mystérieuse et redoutable qui pousse Dominique à trahir tout le monde parce qu'elle se sert de lui en le menaçant, quoi. Enfin, lui fait du chantage pour qu'il œuvre à son compte. Et j'ai trouvé que le 8, il était super fun, en fait. Alors, encore une fois, on se pose pas de questions. Tu vas quand même chercher Charlize Theron, hein, pour jouer Cypher. C'est quand même, hein,
c'est pas l'époque où elle venait de sortir Mad Max?
Si, il me semble, ouais, ça doit être ça, à peu près. Mais je veux dire, ouais, de toute façon, même avant Mad Max Fury Road, c'était quand même un grand nom du cinéma.
Mais c'était plutôt un cinéma, comment dire, elle était moins dans le cinéma d'action que dans le...
Oui, elle était plus indépendant, oui, avec des films comme Monster et tout ça, que je crois qu'elle lui a valu un Oscar, non, Monster.
Oui, c'est ça.
Oui, voilà, c'était ça restait des films. Après, elle avait fait des films d'action aussi, hein, Iron Flux en 2005, je suis en train de regarder, encore en 2008. Même si elle n'était pas dans le rôle d'action, enfin dans Iron Flux, c'est le personnage principal, lui, mais il me semble que dans Hong Kong, elle n'était pas, elle a fait Prometheus quand même, donc là, après quelle Alien que personne veut voir et que tout le monde a voulu oublier. Mais elle n'est pas inconnue non plus des rôles d'action et elle n'a pas non plus un rôle d'action dans Fast and Furious, quoi. C'est plus la chef. Mais j'aime bien comme elle est sadique en fait, avec ce côté très sadique. Et donc t'as Hélène Mirren qui joue la mère chaud. Et là tu te dis ouais d'accord, vous avez pété un câble, je veux dire là au niveau casting, vous êtes en train de chercher le plus grand nom que vous pouvez coller sur un rôle et vous y allez. Et tout le monde dit oui parce que c'est une franchise où chaque film rapporte un milliard en fait maintenant. Et plus ça part dans le grand n'importe quoi, plus ça rapporte. C'est ça qui est hallucinant dans la franchise.
Mais c'est peut-être parce que ça part dans n'importe quoi que ça rapporte aussi.
Oui, il y a un côté n'importe quoi, mais toujours décomplexé, quoi. Clairement, ils se prennent plus au sérieux.
Mais tu vas plus pour un cinéma de logique. Tu vas plus pour un scénario aujourd'hui. Tu vas pour, alors, on pourrait débattre des heures de ce phénomène de société. Tu vas pour consommer ton film et l'oublier une fois que tu l'as vu.
Oui, avoir un grand spectacle qui t'en met plein la gueule. Où t'es là, oui, à la sortie des 2h15 ou 2h20 de film, t'es « Wouah, c'était trop bien !» Et si on te le demande 3 jours après, attends, s'il y a encore des voitures de temps en temps dans le film.
Et en fait, tu vas au stade.
Ouais, mais avec moins de temps mort que dans un match de foot ou de baseball. Quand même. Non, j'étais en train de repenser, je fais, oui, non, c'était dans le set, hein, toutes les scènes avec Idris Elba, là, dans le bois et tout ça. Pas Idris Elba, merde, comment il s'appelle,
Tu parles de qui?
Ben, toute la scène dans les bois, où ils, tu sais, où ils font la super attaque coordonnée avec toutes les voitures, pour récupérer, bah si, c'était celle qui a créé l'œil de Dieu. Pour récupérer celle qui a créé l'œil de Dieu. Donc c'était dans le précédent. Non, j'étais en train de m'en mêler les passous, là, dans le casting. Parce que, tu vois, c'est ça, il y a trop de monde dans le casting. J'étais en train de confondre Idris avec Jimon Unsu. En fait.
D'accord.
Non, je rien dit, non, voilà. Voilà. Et là, en fait, j'ai un gros problème, entre guillemets, hein, avec le 8. C'est qu'entre-temps, on s'est dit, tiens, on va faire un spin-off sur Bourrin et Bourrin qui font copain-copain.
Oh, c'est beau.
Et
c'est,
puis,
c'est beau.
De l'autre côté, il doit faire équipe. Donc, c'était quand même un putain de méchant. Le mec, il a tué de sang-froid juste comme ça pour faire chier Dominique Toretto, son pote Anne. Et tout le 8, l'objectif, c'est de le rendre crédible et humain, quoi. Enfin, et de sous-entendre qu'il l'a pas tué de sang-froid, hein. Et qu'il faut qu'il se rachète. Et du coup, j'ai du mal avec la scène finale où ils sont sur la terrasse, tous ensemble, et là, lui aussi, il est là, et t'as Dom qui fait « Qu'est-ce que c'est bon d'être réuni avec sa famille ?» Je dis « Ouais, sympa, ta sœur et ton beau-frère, ils sont pas là, le mec qui a tué Anne, il est là, c'est sympa la famille, dis donc. En fait, c'est juste tant qu'il y a 8 personnes autour de toi, t'es content. Peu importe qui c'est, en fait.
C'est ça.
Et ça va, ça vient. Hobbs, il est plus du tout crédible en agent fédéral qui devient prisonnier, qui redevient libre, qui redevient pas prisonnier, qui redevient... et qui à la fin décide, ouais, non mais en fait, je vais prendre du temps avec ma fille. Sa fille qui doit être le personnage le plus cool de toute la franchise, soyons clairs. Mm. Et donc, t'arrives à Hobbs et Shaw. Voilà, où il se retrouve à devoir faire équipe pour récupérer un virus mortel qui pourrait créer une pandémie mondiale qui annihilerait l'humanité, enfin du moins tous les bons à rien de l'humanité. Voilà. et bah, j'ai envie de dire tous les clichés. C'était presque devant un film de Terence Hill là carrément, tu vois.
Mais
c'était un peu ce côté-là, sauf qu'il manque le côté playboy charmeur bah, de Terence Hill quoi. Mais ouais, t'as juste un film avec Bud Spencer et Bud Spencer.
C'est ça.
Mais qu'est-ce que putain, je me suis marré devant toutes les vannes qui se balancent. Oh, c'est juste.
J'ai pas pris un mauvais moment à le voir, tu vois.
Ah, Mike E et Moll et Dan ton cul. Putain, les vannes qui se balancent à longueur de temps, quoi. Avec la sœur au milieu. Et enfin, Idris Elba qui fait un film où, bah, il bouge, quoi. Ça fait bizarre.
Oui.
Mais il est très bon, hein, dans le rôle d'action du soldat robotisé. Mais même quand je le vois dans des films d'action genre Pacific Rim ou Suicide Squad, enfin, il bouge pas. Enfin, quoi, Suicide Squad, si, il va peut-être bouger. Mais dans les, je pensais pas à Suicide Squad, je pensais à Avengers et Thor.
Ben, oui, oui, je suis gardien.
Je suis gardien du pont. Donc je tourne une épée qui est enfoncée dans le sol et je bouge pas. C'est... le pauvre. Et là, du coup, il a des vrais bastons et tout. Je veux dire, mais là, encore une fois, c'est les scènes improbables là où toutes les voitures s'attachent l'une à l'autre pour résister à l'hélicoptère qui essaye de d'embarquer la voiture en l'air. Bah ouais, c'est fun. Bon, c'est. Mais bon, le côté des Samoans qui résistent grâce à un AK et en étant torse nu à coups de bâton à la technologie moderne, j'ai un peu de mal quand même au bout d'un moment.
Moi, je trouve que c'est le what the fuck qu'il fallait.
Mais tu l'avais déjà eu dans le présent, le what the fuck, où t'as Dwayne Johnson qui apprend à sa fille et ses copines du soccer à faire le AK pour impressionner l'équipe adverse.
Oui, mais
ça quand elles font la scène là et puis qu'après il termine par ça, son pouce sur le cou en tirant la langue et t'as la capitaine de l'équipe adverse qui fait ouais non c'est bon là je me casse.
C'est ça.
Mais voilà, on refait ça avec tous ses frères, toute sa famille et ouais non c'était fun quoi. Je sais pas, je me suis vraiment éclaté devant mais. Après, je suis pas persuadé que je voudrais avoir toute une franchise Hobbs et Shaw, par contre. Je pense que ça peut devenir très vite saoulant, en fait, ce numéro, entre les deux.
Ouais.
Et vu comment se termine le film, où on t'annonce des suites, je sais pas si... Surtout qu'en plus, les deux, ils commencent à se faire plus jeunes. Hein. Je sais pas quel âge il a, Statham, mais...
Jason Statham, il doit avoir 55 ans.
Ouais, à peu près la même chose que...
Je cherche ça.
Puis Ryan Reynolds, il est insupportable dedans.
53, Jason Statham.
Ouais, quand même, hein. Non, mais t'imagines s'ils repartent sur une franchise de 10 ans?
Ils repartiront pas sur une franchise de 10 ans, ils ont annoncé 40... que c'était le dernier.
48 pour Dwayne Johnson. Et d'ailleurs, ça commence à se voir, il commence à avoir des poils blancs dans son bouc. Faut qu'il... ouais, mais, mine de rien, c'est ça avance vite, hein. Il suffit que tu fasses... Ouais. Tu fais un Hobbs et Shaw en alternance donc tous les deux ans. Tu sais, dans trois films, tu leur rajoutes 4 ans, il en aura 57, hein, Jason Statham. Même s'il est super bien conservé pour 53 ans, quoi. Il arrive à un moment, ça va commencer à faire un poil juste. Hein. Non,
t'as pas, t'as oui, mais quand tu regardes quand tu regardes la jeunesse du 9e film, là, à venir, ça commence à être un peu limite aussi. Hein. Je lisais là sur la genèse, Vin Diesel annonce les dates de sortie des 9e et 10e films. Derrière, ils ont décalé à cause du spin-off.
Puis
sauf que Dwayne Johnson confirme en avril 2018, affirme en 2018 qu'il est pas sûr de revenir pour le 9e film. Parce que déjà il y a le spin-off, il dit ça fait beaucoup de boulot, ce que surtout, je peux comprendre. Hein.
Il supporte pas Vin Diesel.
Et parce qu'il supporte pas Vin Diesel, ouais. Donc, commence à y avoir un conflit avec Vin Diesel. Donc, reste à voir comment ça va finir.
Ouais, mais j'ai envie de dire, Hobbs, tu peux le sortir de la franchise principale. Pour moi, ça reste qu'un personnage rajouté qui est pas vraiment de la famille, au même titre que Letty, par exemple, ou même Roman, qui font partie de la famille. Ouais, puis il parle de ramener, donc, le personnage de Lucas Black de Tokyo Drift pour remplacer, entre guillemets, Paul Walker. Ça serait bizarre, quoi, en fait.
Ouais.
Après, voilà, je vais dire, c'est ouais, c'est des films qui sont fun, qui sont pas prises de tête, mais comme tu, ouais, c'est vraiment ça, comme tu l'as très bien dit, c'est aussi vite vu, aussi vite oublié, quoi. C'est, mais au moins, tu te divertis pendant 2h10, 2h15. C'est peut-être aussi le problème, il faudrait peut-être un peu les raccourcir. Je pense qu'une heure 45-50, ça suffirait, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais, mais il faut que les gens en aient pour leur argent.
Ah bah oui, de toute façon, maintenant, tu sens que les places sont tellement chères que les gens, ils se disent, non, il faut que le film, il fasse au moins 2 heures, sinon je me fais arnaquer. Ah, je préfère un film d'une heure 40 bien rythmé qui se tient bien qu'un film de 2 heures où tu sens qu'on a rajouté 25 minutes au milieu pour arriver à 2 heures, quoi.
C'est ça.
Et donc voilà, bah en niveau carton, bah tu démarres un premier film qui rapporte 207 millions et tu termines au 7 avec 1,5 milliard et le 8 qui fait 1,2 milliard. Mm. Hop, c'est chaud, fait que 758 millions. Hein,
non, mais c'est pas surprenant. Ça.
Voilà, mais après on a bien assisté, hein, c'est Fast and Furious 2. Hop, c'est chaud. Donc c'est pas hop c'est chaud tout court le film, hein, donc tu sais que tu vas voir du Fast and Furious. Mais après ça se répercute en France, hein, tu démarres 1,070,000 entrées et tu montes tout doucement pour arriver au 7.
Non, après la mort de Paul Walker, a fait 4,5 millions, je crois, non?
4,6 millions pour le 7, 3,8 millions, donc tu rebaisses un peu, mais c'est la deuxième meilleure audience pour le 8 et 2,4 millions pour hop c'est chaud, quoi. Enfin,
non, mais pour le coup, le 7 a marché de la même manière que The Dark Knight a marché. Enfin,
ouais, voilà. Oui, il y a eu cet effet-là. Mais je veux dire, sur la progression de la franchise, aussi bien sur le box-office américain que le box-office France, tu suis la même progression, en fait. Avec les mêmes creux.
Oui,
Tokyo Drift connaît un creux. Tu vois, tu passes du 2, il rapporte 236 millions.
Mais Tokyo Drift, c'est 2 heures de creux.
Je veux dire, toute la franchise, c'est 2 heures de creux à chaque fois.
Du coup, ça commence à faire beaucoup d'heures de creux.
Et ouais. Je pense, oui. Après, soyons clairs, à la base, tu sentais qu'ils voulaient faire un œuf pour conclure, mais finalement, bah, rajoutez-en un, qu'on va couper en deux, parce que c'est la mode de finir les franchises par un film en deux parties, hein. Tu sens que Universal veut vraiment étirer le succès, quoi. Ce qui peut se comprendre, hein. Je veux dire, le 8, il a coûté 250 millions, il en a rapporté 1,2 milliard, donc il a rapporté 5 fois sa mise.
C'est ça.
Tu peux comprendre que même si tu rajoutes 200 millions en promo, t'es quand même à 3 fois la mise.
C'est malheureusement pour Universal, je pense, un des seuls moyens de lutter contre Disney.
C'est-à-dire qu'il leur reste ça et Jurassic World. Et Jurassic World, tu vas terminer... Normalement, le 3, il termine la trilogie Jurassic World, hein, donc... C'est pour ça que d'ailleurs ils cherchent à se diversifier et qu'ils ont fait une série télé sur Netflix, une série d'animation, Spy Racers, où tu suis le cousin de Dom, Tony Toretto, et bah c'est pas bon en fait.
Ah bon?
Je sais pas si tu l'as vu.
Non. Enfin j'ai vu la bande-annonce, je me suis arrêté là.
Mais déjà ouais la 3D, ça va, on est plus en 2004 sur PS2, hein. Au bout d'un moment il faudrait peut-être faire un effort sur la 3D, hein. Et puis j'ai un gros problème, c'est qu'ils ont tous, enfin leur âge n'est pas donné, mais physiquement ils font genre 14 ans, ils pilotent des voitures, ils hackent des trucs machin, ils se retrouvent engagés pour être espions parce que tu vois que le petit cousin il veut faire exactement comme le grand cousin Dominique, hein, être un espion, sauver le monde. Et j'ai eu un mal de chien d'arriver au bout des 8 épisodes de la saison 1. Oh, je suis surpris en je sais pas combien de fois. Parce qu'en fait, le problème, c'est que t'es dans une série jeunesse, donc tu mets des vannes partout qui sont pas drôles. Et en fait, le héros, il est tête à claque et l'histoire en elle-même, elle est pas. Et tu sens qu'elle a inspiré des films, tu vois. Et tu dis, elle pourrait être intéressante à suivre si seulement le héros, il était actif. Mais en fait, il se la pète, mais il s'en sort et il arrive au dernier épisode vivant. Et je vais pas vous spoiler le truc, mais il gagne que parce qu'il a du bol, en fait. À chaque fois, les événements. Il y a plein de twists et tout ça, donc je vais pas raconter le truc parce que bon, hein. Mais à chaque fois, c'est un coup de bol qui fait que il se tue pas, qu'il arrive à rester dans la course, qu'il arrive à avoir un indice. Ça lui tombe dessus, littéralement. Il ne fait rien pour. C'est voilà. Tu termines par exemple une des scènes du final. Il est coincé dans un immeuble et puis il voit l'immeuble. Tu sais, l'immeuble il est en train d'exploser. Il fait waouh. Il voit un immeuble en face. Il fait si mon cousin l'a fait, je peux le faire. Oh, la belle référence, tu vois. Et donc, il recule la bagnole à fond la caisse, il fonce, et bah, la bagnole, elle plonge. Il est rattrapé par un coup de grappin de son oncle, enfin de son cousin Dominique qui passait par là en avion. Mais c'est que des... Les 8 épisodes, c'est que des scènes comme ça. Il s'en sort que comme ça, des trucs complètement au hasard. Après, tu peux toujours jeter un coup d'œil au pilote, rien que pour voir Vin Diesel modélisé en 3D. C'est pas à son avantage.
Ouais, non.
Voilà. Après, bon, il y a 2 autres saisons. Je fais non, là, les 2 autres saisons, non. Non, j'ai des limites. Pareil, je testerai pas le jeu vidéo sur PS4. Hein. Il paraît qu'il est nul à chier.
Bah écoute.
Voilà. J'ai déjà pas testé celui qui était sorti sur PS2. Donc, oui, chaque génération de console a eu son Fast and Furious en jeu vidéo, donc.
Bon, écoute, peut-être pas la PS1.
Non, il y aurait pu, hein. Le premier date de 2001. Ouais, il était encore exploité, la PS1 en 2001.
Ouais.
Donc, ils auraient pu. Mais comme c'était un film, entre guillemets, quelconque, dont Universal n'attendait rien, personne n'attendait rien, et qui a été, un joli petit succès d'estime.
Ouais.
C'est pour ça que je pense qu'ils n'avaient pas planifié le développement d'un jeu vidéo.
C'est ça.
Voilà. Enfin, bon. Bah, nous, on se retrouvera quand la franchise sera terminée, hein.
Je pense. Oui, c'est-à-dire dans approximativement 12 ans.
Bah non, je pense que t'en auras un tous les 2 ans.
Oui.
À moins que les 2 derniers, si effectivement le dernier il est en 2 parties, ils te le mettent en mai d'une année et mai de l'année suivante.
Ouais, comme Avengers, quoi.
Voilà. Mais comme je te dis qu'ils sont partis pour faire 14 Hobbs et Shaw...
Bon, on verra, écoute.
Bah oui, mais c'est bien, c'est pratique. Comme ça, Vin Diesel, il est content, il a sa franchise avec Hobbs et Shaw.
Et les 2, ils tournent pas ensemble.
Voilà, et les 2 tournent pas ensemble, et tous les 2 ont le rôle principal d'une franchise qui fonctionne. Ça. Donc... Voilà. Ah tiens, au fait, tant qu'on était dans les âges, il a quel âge, Vin Diesel? 53 aussi. Oui, donc lui aussi, je pense qu'il en a un peu marre et qu'il voudrait que ça se termine.
Bah écoute.
Voilà. Comme ça, il pourra refaire des ridiques.
C'est ça.
Et puis, il pourra se fouler dans les Gardiens de la Galaxie 12. Je s'appelle Groot.
C'est ça.
Je s'appelle Groot. Je s'appelle
et
Groot.
Et tu s'appelles Groot aussi.
Mais il le fait dans toutes les langues. Ah là 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 là, voilà. Donc merci Yann d'être venu partager tous tes souvenirs.
Je t'en prie Nico, il a fallu que j'aille chercher loin parfois, mais oui, je t'en prie.
Voilà, et donc nous on se retrouve bientôt, hein, je sais pas quand, mais bientôt, peut-être, pour un footpod ou un autre cinépod, je ne sais
pour
pas.
Pour un pod.
Ou pas, oui. Bah moi oui, mais toi je sais pas.
Et ben, on verra.
Voilà. Et donc à la prochaine tout le monde. Bye bye. Tchou.
Salut tout le monde.
J'appuie sur le starter. Et voici que je laboure la terre. Je ne reconnais plus personne. En masse et Ferguson. En rentrant au village, j'écrase toutes les poules sur mon passage. Je ne crains pas les voisins sur mon terri blanc.